Retrouvez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparations prêtes à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h, chacun son tour avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Lundi, c'est le tour de Julien. Julien, c'est Julien Durand. Bonjour Julien.
Bonjour Philippe.
Chef de cuisine du restaurant du musée Jacquemart André à Paris et chef à domicile. Chaque semaine, vous nous présentez un jeune, un nouvel artisan,
oui.
Voilà, qui travaille selon votre éthique. Donc, on sera tout à l'heure avec Karam Miloudi. Voilà, on parlera de Chermoula. Un mot, tiens, sur la pâtissière qui est venue la semaine dernière, Yasmine. Franchement, magnifique.
Bah, écoutez.
Moi, je dis beau et bon.
Beau et bon.
Ouais, même parfait. Une réalisation qui frise la perfection.
Ni trop sucré, ni trop. Juste ce qu'il faut.
Hein. Désucré, c'était beau, c'était bon. Magnifique. Donc, spéciale dédicace à Yasmine. Bon, Julien, c'est la saison des fraises.
Ouais, on commence enfin. La fraise française, on parle. Hein.
On parle de la fraise française. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, qu'est-ce qu'on trouve sur les marchés à un prix, on va dire, abordable? Parce que, quand même, certaines fraises sont encore très, très chères.
On est entre 5 et 14 euros du kilo.
Du kilo, ouais. Ouais. On est même plus proche des 14 euros que.
Donc, après, ouais, c'est vrai que cette fraise symbolise un peu le retour des beaux jours. Donc, elle fait envie, elle est juteuse. Après, on ne va pas toutes les faire, mais il faut savoir qu'il y a quand même 600 variétés de fraises en France.
Ouais.
Et dans ces 600 variétés, on va retenir la Mara des Bois, la Gariguette, la Mariguette, la Charlotte ou la Maestro. Et en fonction de cela, on adapte après à nos recettes. Mais ouais, 600 variétés de 4 euros à 14 euros du kilo. Donc c'est vrai que ça reste des produits très onéreux, mais très très bons.
Ouais. Mm-hmm. Donc vous travaillez avec quoi?
Les plus connus, c'est la Mara et la Gariguette. Mm. Où on arrive un petit peu à la faire en cuisson ou à la faire en cru.
Bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, Kim. Parce que là, Kim est à côté de moi. Je suis perturbé. Dis-moi.
Non, je sais pas. J'ai vu que quelqu'un a stoppé la vidéo. Donc.
Mais non, personne. Est-ce que tu as vu quelqu'un? Il y a Garcimore. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi.
Je pense qu'il est saturé.
C'est ça. Voilà. Tu vois ce qui se passe. Bon. Alors, on est en train de filmer l'émission et Kim est parti chercher un caméraman. Donc, on va faire des recettes à base de fraises, Julien, si vous voulez bien. On va faire une eau détox.
Ouais, on a thématisé cette émission sur un peu la fraise et le début du lancement. Donc, une eau détox. Alors, celle-là, elle est avec de la rose et du citron vert. Donc, on prend des boutons de rose, 50 grammes de boutons de rose, 4 citrons verts, 300 grammes de fraises, des glaçons et de l'eau et on laisse macérer pendant 30 minutes. Et ça nous fait une eau rose fraise. D'accord. En eau détox.
Donc rose pour la couleur.
Oui.
Ouais.
Et pour le goût aussi, ça se marie bien, la rose fleur et la fraise s'associent merveilleusement bien.
Bon, le mojito par exemple aussi, comment vous l'interprétez à la fraise, Julien?
Ah, le mojito à la fraise, c'est pas très compliqué. Il faut du sucre roux, il faut 700 grammes de fraises, 4 citrons verts, de l'eau gazeuse. Et puis quelques glaçons, et puis on mélange le tout, et ça fait un mojito à la fraise assez rafraîchissant pour le soir, c'est idéal.
Ouais, alors Kim a l'air tout à fait d'accord.
Ah oui, moi j'avais découvert le mojito sur le tard, parce que dans ma tête, dans mon esprit...
À Cuba?
Non, ici. Je suis pas encore allé à Cuba. Non, mais ici, parce que dans ma tête, c'était alcoolisé. Je pensais que c'était alcoolisé. Et effectivement, à la base, il est alcoolisé. Et après, je l'ai bu donc naturel, quoi, avec de la menthe et tout. J'avais vraiment kiffé. Mais là, la fraise, je demandais à essayer parce que je pense que ça doit être un régal.
Bon, je sais pas.
Le mojito sans alcool, c'est les citrons verts qu'on va mettre dans le pilon et qu'on va piler en fait au fur et à mesure avec le jus de citron, du sucre roux, quelques feuilles de menthe pour la fraîcheur. On peut mettre soit de la limonade si on aime le sucré ou de l'eau gazeuse. Et le tour est joué.
Perrier ou
une autre, pour pas la citer, la Badoit, mais une eau pétillante ou carrément de la limonade si on veut vraiment le côté plus sucré dans l'histoire.
C'est bien. Moi, je pense que pour le tour, c'est bien le mojito.
Bonne idée. C'est pas mal. Ouais.
On va rester sur le rouge avec Julien, votre pesto rosso.
Alors cette semaine, dans ma formule du petit marché, on a un pesto rosso, c'est ni plus ni moins le rouge, pour remplacer un peu ce basilic vert qu'on a. Donc on l'additionne.
D'habitude, c'est vert le pesto.
Vert avec du basilic. Donc là, je mets quand même du basilic. Je mets ce pesto rosso, c'est ni plus ni moins une tomate séchée en fait. Une tomate un peu confite qu'on a fait sécher au four, où on peut le trouver en supermarché déjà tout fait. Et on additionne donc deux basilic. De poudre d'amande pour la liaison, pour lui donner un petit côté un peu plus funky. De l'huile d'olive forcément, un peu de sel, un peu de poivre et une pointe d'ail.
D'accord.
On
c'est,
met
c'est
tout dans le blender.
C'est de la poudre d'amande, en fait.
Ouais, c'est ouais. de la poudre d'amande.
D'accord.
Je trouve qu'il y a moins d'amertume que des noisettes ou autre chose. L'amande est plus doux. Mm-hmm. On peut le faire aux noisettes aussi, mais moi, je mets de la poudre d'amande. On met dans le shaker, on mixe tout et ça se fait cette pâte un peu rouge, vert. Et on l'additionne d'une pennée, on l'additionne d'une pâte que l'on veut.
C'est mon
entrée de cette semaine.
Ouais.
Donc c'est des penne, c'est une salade de penne avec des fines juliennes de chorizo by notre fermier des Vosges, ce pesto rosso tout au-dessus, quelques copeaux de parmesan, des fines tranches de courgettes légèrement marinées, et ça fait une salade un peu printanière. Voilà.
Parfait ça.
Ouais, ça
marche. C'est un peu tôt, hein, Julien, 18h05 là pour parler de ces choses-là, mais c'est un peu tôt. Hein. Bon, alors une salade de couscous perlé à la betterave. La betterave, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Ou les gens aiment, ou les gens détestent. Et il faut trouver des moyens de faire manger de la betterave aux gens.
Bah justement, l'idée, c'était d'amener un peu ce côté rigolo dans le couscous. Donc, le couscous perlé, c'est comme les gros grains, un peu qui ressemblent au boulgour, vous savez. Donc, on peut soit le cuire à l'étouffée, soit on peut le cuire à la vapeur, soit on peut le cuire à la créole, comme le riz, donc dans de l'eau. Mm-hmm. Libre à vous de l'assaisonner comme vous le voulez. Mais on a ce gros grain cru qui fait comme un gros grain de semoule, en fait.
C'est pas facile à dire, ça. Gros grain cru.
Ouais, j'ai réussi à le placer.
Ouais.
Et donc, après, on l'additionne d'une betterave crue ou cuite. On peut l'acheter sous vide, toute faite, ou on peut la cuire à sa façon. Et ces petits morceaux de betterave, quand ils seront cuits, on va les assaisonner avec une petite vinaigrette à base d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, un peu de sel, un peu de poivre. Et on va l'additionner à cette semoule grossière qu'on va mettre avec cette betterave, en fait. Et ça va vous faire un couscous rose avec des morceaux de betterave que vous additionnez avec un peu de pousse d'épinards, que vous additionnez avec quelques copeaux de courgettes ou autre. Après, c'est libre à vous d'assaisonner votre salade.
Ouais, comme dirait l'autre, couleur chelou garantie. Hein.
Ouais, couleur chelou garantie, mais le visuel sera là très prochainement sur mes réseaux. Et vous le verrez que c'est beau et c'est bon.
Alors, on va manger des légumes également avec une poêlée de pois gourmands et de haricots verts.
Moi, j'adore ça. Et mes enfants aussi, j'adore ça. En fait, c'est un sucré salé. Et c'est
Y a du poulet et du miel en plus.
Et voilà, ouais. C'est une petite entourloupe pour passer un peu les légumes verts. On commence aussi à tout juste. Là, ça va être le mois. C'est les mois sympas. Là, on va arriver dans les beaux jours où on va avoir des fruits, des légumes un peu plus cool, quoi. Un peu plus funky. Hein. Donc là, pour cette recette de poulet gourmand et haricots verts poulet au miel, il faut des blancs de poulet, du miel, de la sauce soja, des haricots verts et des pois gourmands, une cuillère de graines de sésame et quelques brins de coriandre que vous mettrez juste à l'envoi. Moi, je suis fan de la coriandre, j'en mets un peu partout. Donc, vous cuisez vos légumes à l'anglaise, donc dans de l'eau bouillante, les légumes verts, simple. Donc, à savoir que quand on cuit un légume vert, on met beaucoup plus de sel qu'il n'en faut, puisque quand vous le refroidissez, vous faites un choc thermique dans de l'eau glacée après, le sel retombe, en fait, et il perd de son assaisonnement. C'est pour ça qu'on assaisonne davantage un légume vert. Vous me suivez?
Dans l'eau?
Ouais, dans l'eau.
Ouais. Moi, je crois qu'il fallait pas mettre le sel dans l'eau parce que les légumes ne la captaient pas.
Non.
Il fallait pas saler l'eau.
Non, pour un légume vert?
Ouais.
Non, nous, dans restauration, pour un vrai légume vert, pour vraiment garder cette belle chlorophylle, ce beau produit, on fait bouillir sa casserole. Pendant que cette casserole bout, donc au bout de 2-3 minutes, on lave nos légumes dans de l'eau glacée. Et justement, ça fait un choc thermique et cette chlorophylle ressort. Et votre légume est vraiment vert de chez vert. Ensuite, on le met dans l'eau bouillante. On le cuit à un haricot vert 7 minutes à 6 minutes, tout dépend de comment on l'aime. Et après, vous le remettez dans l'eau glacée. Et vous avez un légume vert qui va se tenir quelques jours en plus dans le frigo.
D'accord, donc on fait un aller-retour.
Ouais, c'est ça, un choc thermique en fait. Le chaud et froid, et froid et chaud. Pareil pour le pois gourmand, le même principe.
Mmh. Et donc, comment on fait l'assaisonnement après?
On mélange le miel et la sauce soja, on coupe les petits morceaux de blanc de poulet, qu'on va faire revenir dans une poêle, mais sans trop cuisson. Après, au bout de quelques minutes, on va les additionner. On va les additionner de nos haricots verts, de nos pois gourmands. Et ça va faire cette salade un petit peu de mélange pois gourmands, haricots verts et poulet au miel.
Alors, on va interpréter, Julien, un parmentier.
Oui.
Le parmentier. Donc, le parmentier... Alors, il y a eu la grande mode du parmentier de canard qui a été remis au goût du jour par Joël Robuchon.
Oui, ouais. C'est le fameux avec les effilochés pour que rien ne se perde en fait. Et parce que dans le canard, il y a pas mal de chutes et autres. Et tout ce gras et autres, on l'additionnait dans notre pomme de terre en fait. Mmh. Parmentier, c'est pomme de terre.
D'accord. Et donc là, vous allez proposer une interprétation, mais avec du poisson.
Ouais, avec un filet de saumon et un peu de poireau et toujours du chorizo. On va me dire encore du chorizo, mais je mets du chorizo partout. J'ai découvert ce produit, je le lâche plus.
Ouais, ça donne du goût, le chorizo.
Ouais, ça donne du goût. Donc, il faut pour 6 personnes, il faut 800 grammes de saumon, 150 grammes de chorizo en tranches fines, quelques blancs de poireaux, quelques pommes de terre, le lait et la crème fripesse, la chapelure, du sel et du poivre. Après, c'est le même principe que pour un parmentier de bœuf ou un parmentier de canard. et vous mettez le tout au four, vous mettez à gratiner, ça vous fait une purée poisson chorizo, pleine cuillère, c'est de la balle.
Vous faites une purée ou un écrasé de pommes de terre pour le parmentier?
On fait un écrasé au fouet. Moi, j'aime bien la texture, j'aime bien qu'il reste de la mâche. Mais on peut le faire en mousseline, un peu comme on le connaît, c'est-à-dire très, très, très mélangé.
D'accord. Quand vous dites écrasé au fouet, c'est-à-dire?
Quand vous sortez votre pomme de terre, vous l'écrasez avec chaude, vous l'écrasez au fouet, carrément. Vous prenez votre fouet et vous écrasez votre pomme de terre. Sinon, à la fourchette.
Un classique, Julien, de la cuisine bistronomique. Alors, c'est l'endive au jambon. Alors, je vous ai dit ça parce qu'effectivement, avec la nouvelle génération de ceux qui font de la charcuterie halal, ils font du jambon blanc, ce qui était très compliqué à trouver avant. Donc, on peut faire maintenant des endives au jambon.
Je ne sais pas, Kim, tu as déjà mangé des endives au jambon?
Alors, déjà, les endives, je ne suis vraiment pas fan.
Il est compliqué.
Moi, je suis compliqué. Franchement, tout à l'heure, vous parliez même des betteraves, etc. C'est des trucs que je ne mange jamais.
Kim, c'est même pas un rêve, la betterave.
C'est un truc de fou. Mais après, je pense que c'est a priori.
L'endive au jambon, on va te la mettre dans un gratin avec une béchamel. Donc, il y a cette sauce un peu à base de lait lié. Cette endive fondante, ce jambon mi-cuit, on peut le prendre fumé, tu vois, dans l'esprit un peu. C'est une tuerie.
Ah, je pense que de toute façon, quand ça passe à travers les mains d'un chef, c'est autre chose. De toute façon, la cuisine.
Nous, chez moi, c'est un classique de notre cuisine à nous et qu'on arrive maintenant à faire découvrir au plus grand nombre, en fait.
Donc, alors, expliquons à Kim comment on fait une endive au jambon.
Bah, pour 4 personnes, il faut 4 tranches de jambon blanc, 8 endives blanches, 100 g de fromage râpé, un peu de lait, un peu de beurre et un peu de farine. Ça, c'est pour le roux. Donc on prend tant pour tant de lait, 75 centilitres de lait pour 75 de beurre et on va dire 70-75 de farine et la chapelure qu'on mettra juste à l'envoi pour faire le côté un peu gratiné. Donc après vous faites vos endives, vous les faites revenir à la poêle. À savoir que une endive, on dit c'est amer. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever l'espèce de pédoncule, on va l'appeler comme ça. Vous savez ce qui colle
base
à la terre, la base.
Voilà, qui est la base.
C'est ça qui donne cette côté à amertume. Donc nous on l'enlève, on le saute un petit peu. Ça enlève un peu ce côté un peu amer.
Bon, enfin ceci dit, aujourd'hui Julien, elles sont de moins en moins amères hein, les endives.
Ah, un petit peu quand même. Hein. Bon. En tout cas, moi, je saute ce pédoncule-là et je fais caraméliser mes endives à la poêle avec un filet d'huile d'olive, en fait. Caraméliser, on va les faire colorer un petit peu. Une fois qu'elles ont été colorées un petit peu, on les met dans un plat à gratin qu'on aura préalablement beurré, qu'on aura mis un peu de noix de muscade. On va faire une béchamel, comme on sait tous la faire. C'est du lait qu'on fait bouillir et qu'on additionne d'un mélange de farine et de beurre. Les deux liés ensemble, fait une béchamel. Cette béchamel-là, vous l'incorporez avec un peu de fromage. Et vous versez cet appareil béchamel sur vos endives avec vos morceaux de jambon. Votre petite chapelure que vous mettez par le dessus. Une bonne vingtaine de minutes au four à 180. Et vous avez cette endive fondante et ce gratin, en fait.
Parlons de gratin, il y a Mama Riani qui arrive. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Il est en train de...
Il a eu la gentillesse de nous vider la mémoire du téléphone.
C'est lui qui a vidé le téléphone.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire qu'il est en train de faire le couscous pour ce soir. Et il vide le téléphone en même temps.
Je lui donnerai un bonbon tout à l'heure.
Bon. Donc, en fait, les endives, vous les faites pas cuire à l'eau, en fait.
Non, moi, je les mets directement. On peut, c'est vrai, vous pouvez aussi les blanchir si vous le voulez, mais j'en ai pas l'utilité, en fait. Moi, je garde tout son jus de cuisson dans ma poêle, en fait. Et c'est ce gastrique, ce sucre qu'on a là, qui va se rebasculer après dans mon plat gratin.
Parce que si on les cuit à l'eau, elles ont tendance à rejeter de l'eau après.
Voilà, déjà que c'est un produit à 70%, je crois, d'eau, ou 60 et quelques, donc, on va peut-être pas en rajouter. Mais non, à la poêle, pour aller plus vite dans le procédé, vous pouvez les couper en deux si vous voulez et les faire colorer de chaque face, de chaque côté, donc.
Bien, magnifique les endives.
Ouais, c'est pas si mauvais que ça. On a des mauvais souvenirs des endives de l'école, c'est vrai, mais là, la tranche de jambon qu'on peut prendre fumée ou autre apporte un côté un peu gourmand dans l'histoire. Cette béchamel bien grasse, bien bonne, franchement, fait beaucoup de bien. Tu sers ça avec un peu de salade, de la laitue, de la mâche, ça suffit.
Kim, est-ce que tu sais ce que c'est que la chermoula?
Non, pas du tout.
Non, tu connais pas la chermoula?
Non.
Ah, c'est intéressant ça.
Peut-être le nom, je le connais pas, hein, mais.
La chermoulaga.
Moulaga,
la moulaga, c'est déjà cher.
J'aimerais bien en avoir plus d'ailleurs.
C'est pas déjà cher, la moulaga? Enfin, bon, je ne sais pas, Julien. On va parler de la chermoula avec notre invité tout à l'heure que vous avez décidé de nous présenter aujourd'hui, Julien. Il s'appelle Karam Miloudi. Et Karam est un jeune entrepreneur avec une start-up. Et on va justement parler de moulaga. À tout de suite.
Chacun son tour revient dans un instant. 18h, 19h, chacun son tour avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Lundi, c'est Julien Durand qui est avec nous. Julien, on vous suit sur les réseaux. Julien Durand, Julien 94, c'est sur Insta. On peut d'ailleurs goûter votre cuisine. Hein. Vous pouvez commander tous les soirs avec un menu par semaine.
C'est ça.
Ouais, on a commencé. On a fait le pesto tout à l'heure.
On a fait le pesto cette semaine. Donc on a cette salade de pâtes avec cette pesto rosso. J'ai fait une volaille au curry avec une petite pomme verte, des petites pommes de terre, et on part sur un riz au lait au choix à 20 €. Voilà.
Parfait, en tout cas. Tiens, alors, chaque semaine, Julien, vous nous
un ami, un collègue, un copain.
Un artisan. Un jeune qui a franchi le pas, qui s'est lancé. Et aujourd'hui, c'est Karam Miloudi. Bienvenue, Karam.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes créateur d'une entreprise spécialisée dans les marinades biologiques. Ça s'appelle Les Saveurs de Reanima. Et Reanima, c'est une histoire familiale pour vous.
Tout à fait. Reanima, c'est le prénom de ma grand-mère, qui est ma source d'inspiration. Et donc c'est elle qui nous faisait ces délicieuses sauces et marinades étant petit, pour nous faire aimer justement les légumes, sachant qu'on n'était pas trop fan. Et de fait, elle mettait souvent des produits qui étaient assez originaux, de la cannelle, du miel, pour nous faire manger plus de légumes. Et je me suis inspiré de ces différentes recettes pour pouvoir les proposer aujourd'hui au plus grand nombre.
D'accord. Vous êtes allé la voir, vous êtes allé voir dans son cahier de recettes, comment ça s'est passé?
Donc là, en l'occurrence, l'histoire, elle a commencé à Bali. J'étais en voyage avec ma femme à l'autre bout du monde. On est rentré dans un restaurant qui proposait du poisson en fait, issu de la pêche locale. Et à ma grande surprise, à la carte, qu'est-ce que je vois? Du poisson à la chermoula. Donc ça m'a interpellé, j'ai goûté, ça m'a tout de suite fait penser aux recettes de ma grand-mère. En rentrant en région parisienne, tout de suite, j'ai regardé s'il y avait quelqu'un qui en commercialisait. Ça allait pouvoir me donner un petit coup de pouce pour pouvoir réaliser les tagines et différentes préparations à mon domicile. J'en ai pas trouvé. La première chose que j'ai faite, j'ai pris un billet d'avion et je suis parti au Maroc voir ma grand-mère. On a échangé sur les différentes recettes qu'elle nous préparait, etc. Donc j'ai pris mon petit cahier, mon petit stylo, et j'ai commencé donc à plancher sur le sujet. Et en rentrant en France, j'étais déterminé. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut que je propose au plus grand nombre. Donc un produit qualitatif. Et aujourd'hui, je suis fier de proposer donc ces sauces et marinades à nos consommateurs.
Bon, là, vous sautez des étapes. Hein. Vous avez eu une première vie professionnelle où vous avez vendu de l'huile d'argan.
Exactement.
C'était peut-être un peu trop tôt.
Très tôt, d'ailleurs.
C'était trop tôt.
En 2007.
Ouais. Mais il faut toujours se planter une fois. Hein.
Exactement. Donc c'était trop tôt. Et de là, pareil, ma source d'inspiration, ma grand-mère. Je la voyais souvent pendant les vacances d'été s'enduire de cet élixir de jouvence, cet élixir de beauté. Et j'ai voulu là également le proposer au plus grand nombre. Mais c'était trop tôt, le produit n'était pas du tout connu.
Alors que maintenant, c'est plus le moment déjà, celui de l'argan.
Ah, maintenant,
c'est banal.
C'est banal, ouais. Voilà, ça a été repris par...
Mais c'est une histoire de femme, hein, lui, l'argan, d'ailleurs, parce que c'est des femmes, beaucoup, qui travaillent,
exactement,
hein, qui ramassent. Hein,
exactement, et je travaillais en collaboration, déjà en 2007, avec une coopérative qui proposait de l'huile d'argan bio. Et donc j'importais la matière première que je commercialisais sous ma propre marque, effectivement.
Bon, ensuite vous allez faire des métiers alimentaires et vous décidez de repartir dans l'entrepreneuriat et de monter votre propre marque de chermoula.
Exactement.
Les recettes de chermoula, vous les avez pas faites du jour au lendemain. Il a fallu les tester, il a fallu des prototypes, aller voir Julien Durand pour savoir si c'était bon.
Donc il nous a fallu près de 9 mois de recherche et développement. Donc il faut savoir que Les Saveurs de Reanima, c'est une petite entreprise familiale avec ma mère et ma tante, et on remet au goût du jour justement ces recettes traditionnelles.
Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est votre mère et votre tante qu'on cuisinait, qu'on testait, qu'on élaborait les recettes?
On a travaillé ensemble. Donc c'est-à-dire que dans un premier temps, on a trouvé un industriel pour la fabrication des sauces, et on n'a pas pris en considération la stérilisation industrielle qui impacte fortement sur le goût, la texture et le rendu organoleptique. Donc autant vous dire que les premiers prototypes étaient catastrophiques.
Fade.
Très fade, catastrophique. Ouais. Et donc on s'est, je me suis recentré, on a pris un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et on a réussi à mettre en place des recettes qui sont fidèles à plus de 90% aux recettes de ma grand-mère. Et ça aujourd'hui, j'en suis très fier.
Donc, comme vous êtes un entrepreneur de nouvelle génération, vous êtes passé par et vous avez demandé l'aide d'un incubateur.
Tout à fait. Donc, j'ai été
incubé. De start-up.
Exactement. Ouais. J'étais incubé chez Rungis & Co. Et j'ai eu la chance d'être accompagné également par le Val-de-Marne Actif pour l'initiative, qui m'ont permis donc de décrocher du financement et de mettre à jour donc ce projet.
Bon, la base d'une chermoula, parce que des chermoulas, il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en Tunisie, et chaque pays finalement a sa propre tradition de la chermoula.
Hein. Exactement, exactement. Donc nous, il faut savoir déjà que ces recettes, elles sont transmises de génération en génération, et la chermoula, c'est un délicieux mélange d'herbes aromatiques. On a de l'huile d'olive, de l'ail, du jus de citron, des épices, donc qui permettent d'agrémenter et de sublimer tout type d'aliments.
Donc vous en proposez 5.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous avez élaboré les recettes? Donc là, vous avez tâtonné, il y avait des panels qui testaient, qui ont dit ouais, celle-là.
Donc effectivement, des panels, j'en ai fait goûter à pas mal de personnes autour de moi et des personnes qui connaissaient pas du tout. Et effectivement, on en a retenu 5. Donc on a une gamme de marinade pour viande, poisson et crustacés, épicés et non épicés. On a décliné les deux façons, dans le sens où ma femme, elle n'aime pas du tout le manger épicé. Donc, de fait, on a pensé également aux personnes qui n'aiment pas manger pimenté. On a décliné une gamme, donc une sauce pour pâtes, légumes, riz, quinoa, boulgour, donc plat veggie, légumineuse.
Alors, elle est comment cette charmoula pour les pâtes et les boulgour?
Délicieuse. Donc, ouais. C'est-à-dire que c'est une.
Enfin, c'est gentil. C'est vrai que vous avez raison, parce que ma question n'était pas tellement bien posée.
En vrai, c'est pas très objectif.
Elle est à base de quoi?
Voilà, on peut dire que c'est.
Elle est délicieuse.
On peut dire qu'il vend bien son produit. Voilà.
Donc, c'est un mélange, comme je vous ai dit, hein, d'épices, d'herbes aromatiques. On a du persil, de la coriandre. On travaille donc avec de l'huile d'olive, de l'ail, du curcuma, on a du piment doux, du piment fort, et c'est ce qui permet vraiment de relever, d'agrémenter tout type de plat, que ça soit des plats simples ou des plats un petit peu complexes.
Donc il y en a pour les pâtes, mais il y en a pour les légumes, il y en a pour le poisson, vous l'avez dit.
Tout à fait. Il y en a vraiment pour tous les types de plats.
Il y en a pour toutes les sauces. Fallait que je la place.
Bon, c'est bien. Kim, je vois qu'à 18h32, tu as encore le neurone actif et l'œil pétillant. C'est ça qui est bien.
Et enfin, on a mis une gamme sucrée-salée à base de miel et de cannelle qui se marie bien pour les viandes et les légumes.
Bon, à noter que tous les produits sont fabriqués en France.
Tout à fait. On travaille en collaboration donc avec un industriel qui est basé à Lille sur la Sorgue, en région PACA. Et c'est un industriel qui est basé en France depuis plus de 25 ans et qui est spécialisé dans toutes les fabrications et commercialisations de sauces exotiques.
Donc c'est bio, hein, qui me le disait tout à l'heure, mais pas que. Hein. C'est bio et puis il n'y a pas de colorant, pas de sucre ajouté.
Tout à fait. Donc nous, on a voulu vraiment proposer à nos consommateurs des produits de qualité, donc sans colorant, sans conservateur, sans additifs chimiques. Et bien évidemment biologique. Donc là aussi, on a sélectionné avec le plus grand soin nos partenaires qui sont dans la bio depuis plus de 20 à 25 ans maintenant et qui proposent que des produits de qualité aux consommateurs.
D'accord. On vous trouve où dans les linéaires? À côté du ketchup?
Alors, donc dans les linéaires, actuellement, on travaille principalement avec les épiceries fines bio. On travaille également avec des sites spécialisés, que ce soit des sites e-commerce, des plateformes e-commerce. On peut nous retrouver chez Idélis, chez Encore Store. On peut nous retrouver également sur ma plateforme de vente en ligne. Et chez les bouchers également, on travaille énormément avec les bouchers premium de qualité qui sont soucieux des produits qu'ils proposent donc à leurs clients.
Bon, la marque s'appelle...
Moi, je suis content parce que j'en ai un à Alfortville, donc j'ai pas besoin d'aller très loin.
C'est vrai, il n'y a pas besoin d'aller... Uh-huh. Quoique maintenant, on peut tout se livre hein, aujourd'hui.
Livre, mais après, c'est aussi intéressant d'avoir l'avis du boucher pour cette association idéale avec sa viande et autres. C'est à lui aussi à nous de conseiller, je pense.
Exactement. Après, nous, on sélectionne nos points de vente et on travaille vraiment avec des artisans bouchers qui sont passionnés par leur métier, qui mettent la satisfaction au cœur de la satisfaction des clients au cœur de leurs préoccupations et qui ont pour objectif, voilà, de proposer des produits vraiment qualitatifs. Et donc, on leur fait goûter déjà dans un premier temps. Puis, si ça les intéresse, bien évidemment, ils les proposent à leurs clients.
Bon, combien de temps, Karam, entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous avez tenu votre premier pot de
chair moulin? Il m'a fallu bien plus d'un an, un an et demi.
Mais c'est rapide comme quand on y pense, 18 mois.
C'est rapide.
Pour développer un produit qui n'existe pas. Et
Après, bon, grâce à l'aide de ma mère et de ma tante, c'est vraiment un travail en collaboration qui m'a permis d'avancer assez rapidement, effectivement. Et puis, une fois que le produit est mis en place, il y a toute la partie financement.
Vous avez beaucoup investi ? Comment ça s'est passé ? Vous avez cassé le code EV ?
Ah, j'ai mis toutes mes économies personnelles dans ce projet.
Ouais.
Voilà.
C'est
des économies de longue date. Et quand on a une idée à cœur, il faut vraiment y aller, il faut aller jusqu'au bout. Et donc moi je crois en mon produit et c'est pour ça que je voulais me lancer dans cette aventure. Et aujourd'hui je regrette pas du tout.
Julien, notez ce qu'il dit.
Ouais, je note. Et on a une idée à cœur avec DJ Kim, donc on va s'y atteler.
Ah ouais, ouais. Ça bricole, hein. J'ai vu l'alambic, tous les trucs, toutes les gommes.
Faut que je finance la moitié des investissements là.
Ah, donc, c'est sur notre projet, mais aussi.
Ouais, il y aura beaucoup de budget en développement. Bon, alors là, on va les montrer parce que l'émission est filmée. Donc, les saveurs de Rémina, voilà. On les voit. Charmoula, pour ceux qui aiment la charmoula. Voilà, vous pouvez donc les goûter. Vous avez élaboré des recettes, hein, d'ailleurs, testé des recettes à base de charmoula. Ça fonctionne avec quoi, par exemple ?
La charmoula fonctionne très bien avec le poisson. Par exemple, dernièrement, ce que j'ai fait, c'était de la dorade marinée à la charmoula, cuit à la plancha. Très simple à réaliser. Et le gros plus de nos produits, c'est qu'ils sont déjà prêts à l'emploi. Il faut savoir que pour une charmoula, ça prend entre 15 à 20 minutes de préparation.
Ouais.
Il faut laver les herbes, ficeler, mélanger, etc. Donc là, on a quelque chose de prêt à l'emploi et qui nous permet un véritable gain de temps. Et nous, ce qu'on propose, voilà, c'est bien plus que des sauces, c'est un voyage gustatif et une expérience de saveurs.
Bon, Julien, dans un instant, vous nous proposerez des classiques de la cuisine bistronomique en version halal. Et puis, ouais, on continuera à manger des fraises. Okay. C'est le tour de Julien jusqu'à 19h.
Chacun son tour revient dans un instant.
Suivez Chacun son tour avec le renard, numéro 1 de mer en fille depuis plus de 50 ans.
18h, 19h, Chacun son tour avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et c'est le tour de Julien Durand. Julien qui nous présente aujourd'hui Karam Meloudi, créateur d'une entreprise qui commercialise des charmoulas. Ça s'appelle Les Saveurs de Rénima. Voilà, donc 5 saveurs et ça sent le Maroc hein, quand on ouvre la...
Tout à fait.
Le petit pot comme ça.
Exactement.
Bon, Julien, vous allez nous proposer aujourd'hui une version halal d'un grand classique de la bistronomie, c'est le bœuf bourguignon.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut remplacer le vin et obtenir un résultat qui soit comparable ?
Moi, j'ai une méthode, après, à vous de me dire si c'est la bonne ou pas. Déjà, il faut un bon morceau de viande. Il faut vraiment le morceau sympa qui va bien se braiser, comme le morceau de collier ou la macreuse. C'est des morceaux importants et généreux. Si on ne les a pas, ils ne vont pas faire le bon rendu.
Le bon job.
L'idée, c'est de ne pas mettre d'alcool, on est d'accord ? Pas mettre de vin rouge, parce que, à savoir que dans un bourguignon, au préalable, on fait mariner cette viande pendant au moins 24 heures. Et moi, cette marinade, je la remplace par mon marinade de fond de veau, en fait. Donc, mon fond de veau déshydraté, que j'ai additionné d'eau, plus de poudre, temps pour temps, et qu'on a respecté le grammage prescrit sur les bouteilles. J'ai mis mes carottes, mon bouquet garni, ma garniture. Et je mets cette viande dans ce jus de veau pendant mes 24 heures, en fait. C'est le même principe qu'un bourguignon classique, sauf qu'il n'y a pas le vin rouge. Et après, on prend la méthodologie traditionnelle de la cuisine française, c'est-à-dire que après 24 heures de marinade de cette viande de bœuf, qu'on a coupée en gros morceaux, je précise, acheter du collier ou de la macreuse, c'est des morceaux qui se tiennent bien en cuisson pendant deux bonnes heures, vous les faites rissoler en fait à la poêle, à feu vif, de chaque côté. Il faut qu'il y ait cette coloration pour que cette poêle dégage des sucs. Une fois que tous vos morceaux sont bien colorés, vous pouvez mettre votre garniture que vous avez décantée, qu'on a séparé la garniture de son liquide. On fait revenir cette garniture, on fait suer nos carottes, nos oignons, nos blancs de poireaux, nos clous de girofle, j'adore ça, un peu de muscade, je suis fan. Et tout ce mélange-là va donner ce goût à cette poêle. Et cette poêle, vous allez déglacer légèrement avec ce jus de marinade. Ensuite, vous mettez votre viande dans votre faitout avec votre garniture et tout ce qu'il faut avec, et vous laissez cuire à feu assez fort, mais à feu pendant 2 à 3 bonnes heures sur feu doux, on va dire.
Oui, il faut, ça prend du temps.
Ça prend un peu de temps. Ensuite, quand c'est cuit au préalable, il y a différentes méthodes et différentes façons. Il y en a qui la farinent, il y en a qui la farinent pas, qui la singent, donc c'est mettre de la farine. Moi, je la farine pas pour avoir un côté un peu, un jus un peu liquide, mais un peu épais, pas trop non plus. Et ça, vous le servez avec un super pain complet et le tout réjoué avec tagliatelle fraîche ou une poignée de légumes ou ce que vous voulez.
Et c'est meilleur réchauffé.
C'est surtout meilleur réchauffé. C'est mon palliatif pour remplacer cet alcool, donc je le fais mariner dans ce bouillon de bœuf aromatisé de cette garniture.
Bon, et pour la blanquette, alors là aussi, autre classique de la bistronomie.
Bah, la blanquette, il y a les deux écoles, celle qui le lie avec la crème et celle qui le lie pas, mais la blanquette, c'est ni plus ni moins du veau qu'on met à blanchir, en fait. Et une fois que ce veau est blanchi, on l'additionne de nos légumes et le tout dans un faitout va faire cette viande un peu mijotée, compotée, vous savez. Et quand tout est cuit, on ôte la viande avec nos légumes, donc nos oignons, nos carottes, nos poireaux, et on fait réduire ce jus de cuisson. Et ce jus de cuisson de veau qui a pris le jus de viande, qui a pris le jus des légumes, on le lie avec un roux. Mmh. Le roux comme tout à l'heure pour la béchamel. Le lait, et à part, on met le beurre et la farine pour lier ce lait épais, en fait.
Bon, Manuel Marini fait partie de ceux qui lient avec la crème ou pas?
Non. Comme moi. Après, Manu, il le lie avec le jaune d'œuf, il me semble. Mais il y a différentes alternatives, mais l'idée, elle est là, en fait. C'est... En fait, on peut remplacer ces recettes sans mettre forcément de l'alcool, en fait. On peut le déglacer avec du vinaigre, pourquoi pas. Une bonne sauce déglacée avec un bon vinaigre balsamique. On peut faire des recettes, on peut aller au-delà des préjugés et autres.
D'accord, et on obtient un résultat...
Similaire. Après, moi, le bourguignon, pour revenir là-dessus, j'aime bien le lier en fin de cuisson, vous savez avec quoi? Avec du chocolat. Ça atténue un peu cet aspect fort du bœuf et ça l'adoucit, et ça lui donne un petit côté gourmand et sympathique. Donc des vrais carrés de chocolat noir à hauteur de 95% si vous le voulez. Moi, je suis fan du vrai chocolat. Et ça atténue cette sauce, ça la lie aussi et ça donne ce côté marbré, marron et très joli.
On va terminer avec un dessert à base de fraises, Julien.
Ouais.
C'est un rouleau de printemps à la fraise.
Ouais, tout simple. Hein. Ça, je le fais avec ma fille. Vous savez, on connaît tous les rouleaux de printemps à la salade et aux carottes. Là, c'est le rouleau de printemps à la fraise. Donc, on prend les mêmes ingrédients. On prend les galettes de riz, on prend des fraises, des feuilles de menthe. On peut acheter tout fait ou on peut le faire nous-mêmes. C'est des blancs d'œufs cuits au four, des petites meringues et un peu de feuilles de basilic. Donc, on écoute et on découpe les fraises. À savoir qu'une fraise, on la lave avec la queue. On la lave pas sans la queue, sinon elle s'imprègne d'eau, d'accord? On lave toujours une fraise avec son pédoncule. On la coupe en deux, grossièrement, on concasse des petites meringues. On étale donc nos galettes de riz qu'on a mis au préalable dans de l'eau pour les ramollir un petit peu. Et on fait notre sandwich de rouleau de printemps avec ces petits morceaux de fraises, ces petites concassées de meringues, ces petites feuilles de menthe et de basilic. Et vous roulez votre nem, votre rouleau, quoi. Et vous croquez ça et c'est frais, c'est bon, cette saison.
Bien, et puis pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient goûter les sauces de Karam, donc la chermoula, donc c'est les saveurs de Renima. On rappelle votre adresse, Karam.
Donc www.lessaveursderenima.fr.
Vous le retrouvez sur Facebook aussi, allez lui donner un peu de force et de soutien.
Et sur Instagram également.
J'aime bien quand vous dites ça, Julien.
Non, c'est un bon personnage.
C'est vrai qu'il y a toute une génération qui entreprend, qui se lance,
ouais.
Qui en plus entreprend et qui se lance sur des produits qui sont patrimoniaux. Donc c'est important, exactement. Voilà, c'est important de...
Ouais, et puis là, ce produit, ça me tenait à cœur parce que c'est vraiment une utilisation sur des sauces, sur des marinades ou ne serait-ce qu'en condiment. Le packaging, vous le voyez, il est mignon comme tout. Même à offrir, franchement, c'est sympa comme tout, quoi.
C'est bio, ça fait travailler les Français puisque c'est fait en France, hein, donc... Voilà, profitez-en. Merci à tous les deux d'avoir été
merci
avec
à
nous.
Merci à vous.
Merci. Dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun sera avec vous et toute l'équipe de Ramadan & Co.
Retrouvez chacun son tour tous les jours de 18h à 19h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était chacun son tour avec le renard. Semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Numéro 1 de mère en fille depuis plus de 50 ans.